Vous écoutez On lit pour vous.
Un choc pour le milieu culturel. Un texte d'Étienne Paris paru le 8 juillet 2026 dans La Presse. La mort de Marc Messier des suites d'une brève maladie a eu l'effet d'une bombe dans le milieu artistique. Si certains savaient que l'acteur avait connu des problèmes de santé dans les derniers mois, la nouvelle de son départ a été un choc même pour ses collaborateurs les plus proches. Tous saluent aujourd'hui un comédien d'un immense talent qui a su traverser les époques. En septembre 2026, ce sera le 40e anniversaire de la diffusion du premier épisode de L'Anse et Comte. On avait prévu se rassembler une petite gang, mais calvaire, il ne sera pas là. L'Anse et Comte sans Marc Gagnon, ce n'est pas pareil, a dit Régent Tremblay, attristé. L'auteur de L'Anse et Comte avait l'habitude d'aller dîner avec Marc Messier chaque fois qu'il commençait à écrire une nouvelle saison. Régent Tremblay faisait confiance à son instinct et se nourrissait beaucoup des conseils du comédien pour faire évoluer son personnage. Et dire qu'au départ, le chroniqueur sportif était étonné que le réalisateur de la série, le regretté Jean-Claude Laure, ait pensé à Marc Messier pour incarner ce rôle, grandement inspiré de Guy Lafleur. À l'époque, le comédien était surtout connu pour ses talents de comique. Ses doutes seront rapidement dissipés lorsqu'il le verra à l'œuvre. Il a apporté à Marc Gagnon une profondeur, une sensibilité aussi. Je lui faisais totalement confiance. Il y a 45 scènes dans L'Anse et Comte où je n'avais rien écrit. Je le laissais improviser, se souvient Régent Tremblay. L'auteur garde le souvenir d'un homme extrêmement généreux en privé, tellement gentleman. Curieux, intelligent, sensible, drôle, quitte à faire mourir de rire tout le monde sur un plateau de tournage, Marc Messier est décrit également par ceux qui l'ont connu comme une personne très réservée. Il n'était pas du genre à s'épancher sur ses problèmes, se rappelle Marc Labrèche, qui dit avoir eu un coup de foudre professionnel pour Marc Messier sur le plateau de La Petite Vie. Il y avait quelque chose qui se passait quand on jouait ensemble, et Claude Meunier l'avait compris, car il prenait plaisir à nous écrire des scènes ensemble, ajoute l'interprète de Rénal Paré. Sur les réseaux sociaux, Claude Meunier a produit une courte vidéo dans laquelle il rend hommage à son grand ami, qui aura réussi à rendre attachant l'exécrable Régent. Marc, c'est un acteur hors norme. C'est un homme hors norme. C'est un homme que j'ai tellement aimé. J'ai tellement ri avec lui. J'ai tellement eu de fun, se souvient Claude Meunier, visiblement ému, dans une vidéo sur Instagram. Également sur Instagram, Marina Orsini, qui a donné la réplique à Marc Messier dans L'Anse et Comte pendant plusieurs années, a salué un être rassurant et généreux. « Ce qui reste pour moi, c'est cette immense tendresse que tu avais à mon égard. Toujours tellement affectueux, tellement gentil, tellement gentleman. J'avais zéro expérience quand on s'est connus, et tu m'as accueilli à bras ouverts », a souligné l'interprète de Suzy Lambert. Selon Marina Orsini, Marc Messier est assurément allé rejoindre son grand ami, le comédien Michel Côté, son partenaire de jeu dans la pièce Brou, mort en 2023. Parlant de Brou, en entrevue avec La Presse, l'acteur Marcel Gauthier paraissait lui aussi sonné par l'annonce de la mort de son complice de longue date, avec qui il a partagé la scène pendant 38 ans. Marcel Gauthier savait que son ami avait connu des ennuis de santé dans les derniers mois, mais il ignorait que c'était aussi grave. Il n'a eu que de bons mots, tant pour l'homme, à qui il a parlé pas plus tard que la semaine dernière, que pour l'artiste incroyablement talentueux qu'il était. Il avait un grand respect pour le public. Peu importe ce qu'il vivait dans sa vie personnelle, je ne l'ai jamais vu négliger une représentation. Il donnait toujours tout ce qu'il avait. En 38 ans, faut le faire quand même, remarque Marcel Gauthier, aujourd'hui le dernier survivant de la distribution originale de Brou. Comédien polyvalent. Après avoir quitté Brou, Marc Messier jouera en 2017 dans La mort d'un commis voyageur. Une pièce assez tragique, à milieu des comédies grand public comme les Boys qui ont fait sa renommée. Après Brou, il aurait vraiment pu se reposer. Mais non, Marc voulait encore prendre des risques. C'était vraiment quelqu'un qui aimait ce métier, se rappelle son ami Éric Bruno, qui jouait son fils dans cette adaptation de Serge Denoncourt. C'est lors d'une soirée bien arrosée avec le metteur en scène que Marc Messier lui avait confié son rêve de jouer le rôle principal dans ce portrait de l'Amérique d'après-guerre signé Arthur Miller. Il voulait se prouver à lui-même qu'il était capable de jouer ce rôle dramatique qui avait été incarné par beaucoup de grandes figures, se souvient Serge Denoncourt, qui n'a jamais douté qu'il serait à la hauteur. Le soir même, ma décision était prise. C'était clair qu'on le faisait. Les bons acteurs, ils sont aussi bons pour la comédie que pour le drame. Et Marc faisait partie de cette catégorie, résume le metteur en scène. C'était « Un choc pour le milieu culturel », un texte d'Étienne Paré paru le 8 juillet 2026 dans la presse.
Un film plus fin qu'un cheveu pourrait protéger les astronautes des radiations spatiales. Un texte d'Arnaud Pagès, paru le 29 juin 2026 dans Futura Science. Alors que l'exploration spatiale prend de l'ampleur, une équipe de chercheurs de l'Institut coréen des sciences et technologies, KIST, K-I-S-T, a mis au point un matériau qui bloque simultanément les ondes électromagnétiques et les rayonnements neutroniques pour protéger efficacement les équipages et les équipements. Depuis toujours, les ondes électromagnétiques posent problème lors des missions spatiales car elles peuvent porter atteinte aux cellules humaines, perturber les systèmes électroniques et endommager les capteurs optiques. Par nature, pénétrants et difficiles à arrêter, les neutrons peuvent, quant à eux, provoquer des dégâts dans les ordinateurs de bord, abîmer durablement les semi-conducteurs et rendre certains revêtements radioactifs. Jusqu'à présent, il fallait deux technologies de blindage utilisées séparément pour parvenir à les stopper, ce qui était complexe à mettre en œuvre sans pour autant offrir une protection réellement optimale. Un film révolutionnaire. Pour résoudre ce problème, l'équipe de recherche a combiné deux types de nanotubes aux fonctions différentes. Ils ont utilisé des nanotubes de carbone, CNT, hautement conducteurs, qui peuvent absorber et réfléchir les ondes électromagnétiques, et les nanotubes de nitrure de bore, BNNT, riches en bore, qui sont capables de capturer efficacement les neutrons. Comme les deux matériaux forment naturellement une structure en coquille, en s'enveloppant entre eux, les chercheurs ont réussi à créer un film ultra mince, moins épais qu'un cheveu humain, qui bloque simultanément les deux types de radiation. Le matériau ainsi obtenu atteint des performances inédites en stoppant 99,999% des ondes électromagnétiques et environ 72% des neutrons, comme expliqué dans Advanced Materials. Des propriétés mécaniques remarquables. Les propriétés mécaniques du film sont également tout simplement remarquables. Même étiré à plus du double de sa longueur initiale, son pouvoir de blindage reste intact. De plus, l'intégration d'une structure en nid d'abeille par impression 3D améliore la protection d'environ 15% par rapport aux matériaux plats de même épaisseur. Le film se révèle aussi résistant à des températures allant de moins 196 degrés Celsius à 250 degrés Celsius, ce qui ne laisse planer aucun doute quant à sa capacité à équiper des engins spatiaux. En étant à la fois extrêmement fin et aussi flexible et résistant que du caoutchouc, ce matériau représente un concept complètement nouveau pour les technologies de blindage. En pouvant bloquer simultanément les ondes électromagnétiques et les radiations avec un seul dispositif, cette technologie est importante pour sécuriser les matériaux avancés nécessaires à la concrétisation de l'ère spatiale. C'était « Un film plus fin qu'un cheveu pourrait protéger les astronautes des radiations spatiales », un texte d'Arnaud Pagès, paru le 29 juin 2026 dans Futura Science.
Déménager sans stress. Un dossier de Justine Bouchard-Girard et Anne-Sophie Dufour, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir. Premier texte. Pour un déménagement moins stressant. Changement d'école, de voisinage, de milieu de vie et séparation avec son animal de compagnie. Le déménagement peut engendrer une multitude de bouleversements pour les humains et pour leurs bêtes poilues. Une psychologue vous aide à surmonter cet épisode stressant. Quelles sont les répercussions d'un déménagement chez les adultes et les enfants? On a tendance à sous-estimer le stress associé au déménagement, constate Catherine Raymond, psychologue et chercheuse postdoctorale au département de psychologie de l'UQAM. Ce stress peut notamment se manifester sur le plan physique par des problèmes digestifs, des changements d'appétit et des maux de tête, mais aussi sur le plan psychologique par des sautes d'humeur, de l'irritabilité et des difficultés de concentration, explique la psychologue. Elle affirme que, chez les enfants, les symptômes sont surtout physiques. En plus de l'hyperactivité, ils vont nous informer qu'ils ont mal au ventre, mais ils auront de la difficulté à associer ce malaise à ce qui est en train de se passer. Selon la chercheuse, le déménagement peut être considéré comme un événement stressant, car il réunit les éléments qui peuvent déclencher une réponse de stress. Un faible contrôle, de l'imprévisibilité, de la nouveauté et un ego menacé, soit la possibilité de ressentir un sentiment d'échec si, par exemple, le déménagement ne se déroule pas comme prévu. En cas de stress, quels sont vos trucs en vue du jour J? Si le stress vous envahit, la psychologue suggère de prendre un moment pour se questionner. Pourquoi cette situation me stresse-t-elle? Cette réflexion permet de mieux cibler les stratégies à adopter. Si vous ressentez un manque de contrôle, faire des listes de tâches et prévoir des plans B sont des solutions. Face à l'imprévisibilité ou à la nouveauté, se familiariser avec le nouvel environnement en prenant le temps de repérer les arrêts d'autobus, par exemple, peut aider à réduire son sentiment d'incertitude. Si votre ego est menacé, se montrer vulnérable à autrui peut aider, mentionne Catherine Raymond. On a tendance à idéaliser le déménagement, alors, s'il prend le double du temps prévu, on ressent un sentiment d'échec, constate la psychologue. Pour faciliter la transition chez les enfants, la chercheuse recommande de les impliquer dans le processus. Elle suggère de visiter la nouvelle demeure avec eux pour qu'ils puissent se projeter dans le nouvel environnement. Le stress n'est pas mauvais, rappelle-t-elle. Il permet notamment de donner de l'énergie et un déménagement, ça en nécessite. Qui sont les plus touchés par cette transition? Les personnes présentant un trait de personnalité anxieux ont plus de mal à gérer l'incertitude liée au déménagement, estime la psychologue. Les gens qui ont tendance à ruminer sont aussi plus vulnérables. Ils peuvent ressasser en boucle tout ce qui ne se passe pas correctement pendant la période du déménagement, précise la chercheuse. L'experte reconnaît aussi qu'en cas de précarité financière, la charge mentale peut être grande, puisque les coûts associés à un déménagement sont élevés. Si déménager implique de se séparer d'un animal de compagnie, comment préparer son enfant et s'y préparer soi-même? Si votre nouveau logement n'accepte pas les animaux et que vous devez vous séparer du vôtre, le deuil peut être particulièrement difficile à vivre pour les enfants, souligne Catherine Raymond. Elle explique qu'en tant que parent, il ne faut pas craindre d'aborder le sujet avec son enfant. La psychologue note que certains parents ont le réflexe d'éviter les conversations difficiles par peur de faire apparaître des symptômes, mais qu'au contraire, offrir à l'enfant un espace pour s'exprimer est bénéfique pour lui. Elle suggère des questions simples pour ouvrir la discussion. « Comment te sens-tu de laisser Tigrou? Est-ce que ça te fait de la peine? » Les adultes non plus ne sont pas à l'abri du deuil d'un animal. Des recherches montrent d'ailleurs que le deuil animalier peut influer sur notre santé mentale au même titre qu'un deuil humain. Une vague de chaleur qui impose la prudence. Le sud du Québec connaîtra une vague de chaleur. Les régions touchées seront l'Outaouais, la Naudière, Montréal, Laval, les Laurentides, la Montérégie, le centre du Québec et l'Estrie. Environnement Canada met en garde contre des températures ressenties pouvant dépasser les 40 degrés centigrades. Des prévisions entre 30 degrés centigrades et 33 degrés centigrades avec des valeurs d'humidex allant de 40 à 44 degrés centigrades sont attendues. Les nuits seront également chaudes, avec un mercure qui devrait se situer autour de 20 degrés centigrades. Environnement Canada rappelle que de telles températures peuvent causer de l'épuisement ou des coups de chaleur, surtout chez les personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées, ou celles qui ont certains problèmes médicaux. La prudence est particulièrement de mise durant les déménagements. Vous écoutez « Déménager sans stress », un dossier de Justine Bouchard-Girard et Anne-Sophie Dufour, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte. Déménager sans négliger les animaux. Changement d'école, de voisinage, de milieu de vie et séparation avec son animal de compagnie. Le déménagement peut engendrer une panoplie de bouleversements pour les humains et pour leurs bêtes poilues. Le Devoir a discuté avec un vétérinaire pour comprendre comment assurer le bien-être des animaux lors de cette période. Comment préparer un animal au déménagement? Il ne faut pas négliger le stress de cette transition de vie chez l'animal, souligne le docteur Vincent Paradis, vétérinaire et directeur de la médecine du refuge Pro Anima. L'organisme recueille, soigne et héberge des animaux errants, abandonnés ou en détresse, et leur trouve de nouvelles familles. Lors du déménagement, l'idéal est que l'animal soit dans un autre environnement, selon le spécialiste. Ça va être stressant, mais au moins ça va être moins le chaos que là où se déroule le déménagement, indique-t-il. Si vous ne pouvez pas le faire garder le temps de déménager les boîtes, le docteur Paradis vous suggère de maintenir l'animal dans une pièce fermée de la nouvelle habitation pour éviter qu'il s'enfuie. Selon lui, la meilleure mesure de prévention est de faire micropucer son animal afin de le retrouver plus facilement s'il parvient à s'échapper. S'il n'a pas de micropuce et qu'il s'enfuit, appelez les centres animaliers et les refuges qui ont un contrat avec les villes, consultez les médias sociaux du quartier, questionnez le voisinage et imprimez des affiches de l'animal, recommande l'expert. Quelle est la marche à suivre si l'on voit un animal de compagnie qui semble perdu aux alentours du 1er juillet? Si vous voyez un chien errant au Québec, peu importe la période de l'année, ce n'est pas normal, mentionne le vétérinaire. Il faut donc contacter les services d'urgence des refuges animaliers de la région. Pour ce qui est des félins, il faut faire attention de ne pas généraliser car, dans la majorité des cas, les gens ne font pas d'abandon sauvage et prennent des bonnes mesures lorsqu'ils déménagent, constate le vétérinaire. Si vous croisez un chat gentil qui semble bien portant, vous allez probablement commettre un enlèvement bienveillant si vous l'amenez dans un refuge, prévient le docteur Paradis. Il réitère qu'en cas de doute, il faut appeler un organisme comme Pro Anima avant de faire quoi que ce soit et s'informer auprès des voisins. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui déménage le 1er juillet, dit-il. comment se manifeste le stress chez les animaux? Les animaux sont beaucoup plus à notre écoute que nous le sommes vis-à-vis d'eux, explique-t-il. Si vous êtes habituellement étendu sur le divan à une certaine heure et que là, vous jouez avec des boîtes en carton, ils vont ressentir le changement et devenir stressés eux aussi. Lorsque les animaux vivent du stress, ils peuvent avoir des manifestations physiques et comportementales. Perte d'appétit, léchage compulsif, vomissement, problèmes urinaires et tendance à s'isoler en sont quelques exemples. Si l'on constate un stress chez son animal de compagnie, que faire? Si votre animal est stressé, il faut éviter de faire une pendaison de crémaillère trop tôt, car c'est important qu'il puisse s'acclimater à son nouvel environnement avant qu'on y introduise des inconnus, souligne le docteur Vincent Paradis. Le vétérinaire explique aussi que les odeurs familières sont rassurantes pour les chats. Il faut donc s'abstenir de laver sa couverture ou ses jouets adorés dans les premières semaines. Et si déménager implique de devoir vous séparer de votre animal, le mieux est de vous y prendre le plus tôt possible pour que Pro Anima puisse bien préparer sa prise en charge, dit-il. L'organisme héberge d'ailleurs temporairement des animaux lorsque leurs maîtres sont expulsés de leur logement. C'était « Déménager sans stress », un dossier de Justine Bouchard-Girard et Anne-Sophie Dufour, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir.
La solide salade de Michel Lemieux à 40 ans. Un texte de Geneviève Tessier, paru le 31 octobre 2024 dans BANQ. Cette année marque le 40e anniversaire d'un spectacle résolument audacieux pour le Québec du début des années 1980. Solide salade de Michel Lemieux. Ce spectacle avant-gardiste, de même que l'ensemble de la carrière de cet artiste inclassable, peut se résumer en un seul mot. Multidisciplinarité. Voici un bref regard sur l'œuvre de Michel Lemieux et de Lemieux Pilon, 4D, art, dont BANQ conserve les fonds d'archives. S'emparer de la nouvelle vague. Il est facile de reconnaître un son inspiré de la décennie 1980, de même qu'un certain esthétisme. Synthétiseur, boîte à rythme, couleurs éclatantes, formes angulaires, style éclectique, marqué par une grande liberté d'expression. À la fin des années 1970, Michel Lemieux étudie en production théâtrale, puis fréquente le milieu de la danse contemporaine avec notamment Édouard Locke et Louise Le Cavalier. Il s'imprègne alors d'une multitude de courants artistiques et musicaux. Du style New Wave au constructivisme russe, en passant par les mises en scène et la théâtralité des spectacles de Genesis. Définir solide salade est un défi en soi. Jamais le Québec n'avait assisté à une telle performance. À l'affiche, à guichet fermé au Spectrum de Montréal en 1984, Michel Lemieux devient simultanément musicien, chanteur, acteur et véritable sculpture vivante. Tout ceci enrobé dans une scénographie dynamique presque déjantée où la lumière est maître d'œuvre. Métaphoriquement, on pourrait aussi y voir l'expérience multisensorielle d'un homme face à son époque en mutation. Le retentissement du spectacle est tel qu'une tournée internationale de 2 ans s'ensuivra. Un travail rigoureux. Michel Lemieux travaille minutieusement les effets visuels de ses œuvres. La lumière est toujours exploitée comme un matériau et elle fait partie intégrante de la scénographie. Pour Solide Salade, il crée la musique, les textes et la mise en scène. Il collabore notamment avec René Richard Cyr et la danseuse et chorégraphe Sylvie Panérémon. Dans la foulée, il travaille sur quelques-uns des premiers vidéoclips réalisés au Québec, de même que sur des disques 45 tours. Une collaboration féconde. En 1990, Michel Lemieux quitte l'avant-scène. Il privilégie la conception de spectacles multidisciplinaires avec un nouveau partenaire, l'artiste-photographe Victor Pilon. Ensemble, ils formeront la compagnie Lemieux Pilon 4D Art. Le duo est reconnu pour l'utilisation raffinée des technologies dans les œuvres scéniques, si bien qu'ils développent ensemble leur image de marque. Avec l'intégration de l'art holographique ou projection d'images virtuelles, ils arrivent à faire interagir sur scène des comédiens en chair et en os avec des images en 3D en suspension dans l'espace. Cet exploit technologique encore inégalé n'est toutefois pas une fin en soi. Les projections d'images virtuelles servent à transmettre une émotion, une dimension intangible de l'histoire racontée dans le spectacle. La complexité des sentiments humains est omniprésente dans les œuvres de Lemieux Pilon. 40 ans de création éclectique. En rafale, voici quelques-uns des projets créés par Michel Lemieux et Victor Pilon au cours des 40 dernières années. Territoire onirique pour le Musée des beaux-arts de Montréal. Feu sacré à la Basilique Notre-Dame de Québec. La Belle et la Bête et La Tempête au Théâtre du Nouveau Monde. Et Norman, un hommage au cinéaste Norman McLaren. Ils ont également collaboré avec le Cirque du Soleil à l'élaboration de spectacles comme Toruk et Michael Jackson One et ont signé la conception de Continuum, exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal. Des spectacles extérieurs de grande envergure tels que La Nuit de Montréal pour le 350e anniversaire de Montréal et trois éditions du festival Black and Blue ont fait rayonner Montréal à l'échelle internationale. Enfin, depuis 2016, le parcours urbain Cité Mémoire illumine d'immenses pans de murs du Vieux-Montréal en mettant en valeur des gens, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire de la ville. C'était Solide Salade de Michel Lemieux à 40 ans. Un texte de Geneviève Tessier paru le 31 octobre 2024 dans BANQ.